Il y a quelques semaines, une jeune femme m'a écrit sur Instagram et elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle m'a dit « J'ai enfin compris que tu n'es pas quelqu'un de discipliné. Ton secret, c'est simplement que tu fais ce que tu dis que tu vas faire. » Sur le moment, ça m'a fait sourire parce que ce qu'elle appelait « ne pas être discipliné » est précisément ce que moi j'appelle discipline. Mais cette remarque m'a surtout fait réfléchir. Je me suis posé beaucoup de questions. Notamment, pourquoi est-ce que dans l'imaginaire collectif, la discipline ressemble à quelque chose de dur, de rigide, d'extrême? Pourquoi est-ce que faire simplement ce qu'on a décidé de faire semble exceptionnel et surtout, qu'est-ce que ça dit de notre rapport à la structure? Quand j'ai décidé, il y a plusieurs années, de me prendre réellement en main, je n'étais pas dans un grand élan de motivation. Je n'étais pas inspirée, je n'étais pas empowered, j'étais fatiguée de moi-même. Ma vie me déprimait, c'est-à-dire que je vivais la même journée tous les jours. Je dormais énormément pour fuir le réel, mais aussi parce que j'étais fatiguée de ne rien faire de tangible ou d'utile. En gros, je subissais ma vie. Je savais ce que je voulais, mais je n'avais absolument aucune piste pour le matérialiser, donc j'ai fini par me dire que c'était impossible. Toutes mes aspirations étaient passées du côté du rêve. J'étais fatiguée de répéter les mêmes schémas, j'étais fatiguée d'avoir des intentions claires et des résultats incohérents. J'étais fatiguée de me promettre des choses que je ne tenais pas. Quand j'ai fini par vraiment décider de me bouger, instinctivement, je ne me suis pas tournée vers des discours motivants. Le contenu motivationnel, c'était non. Je me suis tournée vers du contenu entrepreneurial. À l'époque, je ne voulais pas créer d'entreprise. Je ne voulais pas entrepreneur. Ce n'était pas le plan. Mais ce contenu me parlait d'une manière que je n'arrivais pas à expliquer, en fait. Ce n'était pas spectaculaire ou émotionnel. C'était structuré. On parlait de gestion, de responsabilité, de ressources limitées, de décisions qui ont un coût. Et j'ai commencé à voir ma vie différemment. Je me suis dit, si une entreprise mal gérée finit par échouer, pourquoi est-ce que moi, j'échapperais à cette logique? Et c'est là que les choses ont commencé à changer, parce que j'ai compris que je suis ma première entreprise. Pas au sens business, mais au sens structurel. Ce que l'entrepreneuriat m'a appris, ce n'est pas comment gagner de l'argent. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je gagne de l'argent de cette manière-là, mais je te parle de bien avant que cette possibilité ne soit sur la table. Ce que l'entrepreneuriat m'a appris, c'est comment gérer. Et j'ai réalisé que les principes qu'on applique naturellement à une entreprise, je pouvais les appliquer à moi-même. Par exemple, gérer des ressources limitées. J'ai commencé à comprendre qu'une journée n'a que 24 heures et que ce temps que je passais à regarder des films en espérant que les choses changent d'elles-mêmes, c'est du temps perdu, il ne sera jamais récupéré. Gérer des priorités. Je n'en avais pas établi, donc des priorités se sont installées d'elles-mêmes, comme le sommeil dont je parlais tout à l'heure. Gérer des arbitrages. Je n'avançais pas parce que je ne décidais pas. Prendre les décisions qu'il fallait signifiait devoir décevoir l'entourage parce que ma situation, qu'on se le dise, l'arrangeait d'une certaine façon. Je disais oui à tout, j'étais toujours disponible, j'étais utile dans cet état-là pour tout le monde. Gérer des coûts. Choisir, c'est renoncer, mais renoncer à ce qui t'avantage le moins pour te focaliser sur ce qui te mène plus loin. On ne laisse pas une entreprise fonctionner sans structure, consommer ses ressources sans contrôle ou avancer sans direction claire. Alors, pourquoi est-ce que je me traitais différemment? C'est là que j'ai commencé à regarder ma vie comme une entité à gérer, pas à contrôler, mais à structurer. Et très vite, quand je me suis mise dans le bain, j'ai remarqué que 4 axes se sont dégagés. 4 leviers fondamentaux. Le premier, c'est le corps. Le deuxième, c'est le cerveau. Le troisième, c'est l'attention. Et le quatrième, c'est l'organisation. Si l'un de ces 4 éléments est mal géré, l'ensemble devient instable. Commençons par le corps. Ton corps est un actif. Et un actif mal entretenu perd de la valeur. Un actif, c'est quelque chose qui a de la valeur et qui peut produire encore plus de valeur si tu en prends soin. On en parle généralement dans le monde business. Quand je parle de ne pas en prendre soin ici, je parle du manque de sommeil, je parle d'une alimentation incohérente. Je parle de sédentarité, ne pas faire de sport, ne pas te bouger, rester assis devant ton ordinateur ou alors affalé sur ton canapé toute la journée. sédentarité. Quand tu gères ton actif qui est ton corps de cette manière-là, ce que ça entraîne, c'est une baisse de clarté. Tu réfléchis, tu es moins sharp sur la réflexion. C'est l'irritabilité, les décisions impulsives. C'est même question d'esthétique. Quand je parle de nutrition ou de sport, non, c'est loin de là. C'est stratégique. Je te prends un exemple. Tu dors 5 heures par nuit depuis 6 mois et je te dis que tu tiens. Mais en réalité, tu deviens plus irritable avec tes enfants. Tu leur cries dessus. Tu deviens plus dur avec ton équipe au travail. Tu prends des décisions rapides pour te débarrasser du sujet au lieu d'aller dans le fond. Et c'est parce que tu es fatigué, en fait. Tu manques de sommeil. Tu te dis que tu tiens, mais en réalité, tu t'uses. Tu sautes le déjeuner, tu enchaînes café sur café, on sait que c'est ta marque au bureau, tu bois du café. À 16h, tu t'effondres et tu reportes des décisions importantes le soir avec ton compagnon, ton mari, ou alors avec des collaborateurs, et puis ça n'avance pas parce que tu n'as pas la bande passante émotionnelle. Généralement, quand je me rends compte que je commence à sombrer dans une spirale négative, je bois du noir ou alors je ne suis plus du tout productif, je me pose 4 questions. Est-ce que j'ai assez dormi? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis fauché? Est-ce que je fais face à une situation qui, parce qu'elle est nouvelle, est un territoire inconnu et elle me semble insurmontable? Quand je dis ça, généralement les gens rient, mais c'est la vérité. Quand je me demande est-ce que j'ai dormi, c'est pour assesser mon sharpness. Je peux me rendre compte qu'en réalité, je bois du noir parce que je suis fatiguée. Et ça arrivait très récemment. Je montais l'escalier pour rentrer chez moi et je me suis rendu compte que je broyais du noir. Ma vie ne marche pas, tout est noir, rien ne marche. Je suis triste, je vais pas y arriver. Et je me suis interrompue en pleine réflexion et je me suis dit, mais en réalité, tu n'as pas assez dormi, va te coucher. Parce que là, tu fatigues le monde, va te coucher. Et quand je suis rentrée chez moi, je suis allée dormir, je me suis réveillée de meilleure humeur et j'ai pu continuer ma vie. La faim et la soif peuvent créer le même effet chez certaines personnes ou le fait d'être fauché. Juste le fait de ne pas avoir l'argent dont on veut disposer peut faire broyer du noir. Mais si tu n'es pas assez sharp pour comprendre que ça c'est un facteur déclencheur chez toi, tu vas te dire que rien ne marche, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est pas un problème de confiance en soi, ou de vie noire, ou d'impossibilité à atteindre certains objectifs, non. C'est un problème d'entretien d'actifs. Et je rebondis en disant, l'énergie est une monnaie. Chaque décision, chaque conversation difficile, chaque arbitrage te coûte de l'énergie. Si ton niveau d'énergie est bas, tu prends une décision de survie, pas des décisions de direction. Je te prends un exemple. Tu acceptes une réunion à 19h alors que tu es déjà vidé. Et ensuite, quand tu rentres à la maison le soir, ton enfant a du mal à se coucher, il traîne des pieds, tu lui cries dessus, tu te dis qu'il est mal élevé, tu ne fais pas bien ton travail, ou alors c'est lui qui n'écoute jamais. Pourtant, c'est un problème d'énergie mal géré. Si, parce que tu n'étais pas déjà fatigué, tu avais anticipé, tu aurais compris qu'en fait, le peu d'énergie qui te reste là, tu vas la consacrer à ton enfant le soir pour avoir une soirée paisible, pouvoir dormir et te réveiller le matin et avoir une journée claire. Mais non, tu as accepté le meeting de 19h et quand tu rentres à la maison, c'est le chaos et tu reportes ton énervement sur l'enfant. Pourtant, il n'a rien fait. Quand ton énergie est basse, tu prends des décisions de protection. Crier sur l'enfant, ça te protège du fait que tu ne t'avoues pas que c'est toi le problème. C'est l'enfant le problème, celui qui n'écoute pas, celui qui refuse d'aller se coucher. Cette fatigue-là te pousse à faire énormément de choses que tu n'aurais pas fait en temps normal. C'est parce que ton cerveau passe en mode conservation, en mode protection. Tu cherches à éviter les conflits, à réduire l'effort, à limiter les risques, donc tu prends des décisions qui ne t'avantagent pas, mais qui te servent sur le moment. Tu reportes les relations difficiles, choisis la solution la plus rapide plutôt que la plus juste. Tu maintiens un équilibre imparfait parce que le changer te paraît trop coûteux. Tu ne diriges pas, tu te protèges. Pourtant, quand tu as assez d'énergie, quand tu vas bien, tu prends la décision d'expansion. Tu peux tolérer l'inconfort, donc ça ne te dérange pas d'engager des discussions difficiles. Tu ne repousses plus pendant des mois, tu prends la décision stratégique. Même ça crée des vagues parce que tu sais que tu peux faire face à ces vagues-là. Tu investis dans le long terme. En fait, tu ne cherches plus seulement à préserver ce qui existe, tu te focalises sur construire ce qui va te mener plus loin. Et quand je parle de construire ce qui te mènera plus loin, je vais dire ceci. La constance prime sur l'intensité. En entrepreneuriat, ce sont des actions répétées qui créent le résultat. C'est la même chose pour ton corps. La discipline basique vaut nettement mieux que des pics de motivation. Une entreprise ne se construit pas sur des élans d'intensité, elle se construit sur des systèmes reproductibles. Et c'est la même chose pour ta vie. Je te prends un exemple simple. Quand tu fonctionnes sur la motivation. Voici comment ça se passait quand je fonctionnais, moi, à la motivation, il y a de nombreuses années. Le jour où je suis motivée, je donne tout. Je vais travailler comme une dingue. Je serai vraiment la personne la plus productive au monde. Et parce que je suis pleine de dopamine, parce que je suis pleine de fierté par rapport à cette journée qui a été hautement productive, je me promets de faire la même chose le lendemain. Sauf que le lendemain, quand je me réveille, je n'ai aucune motivation. C'est-à-dire que non seulement je n'ai aucune motivation, mais je n'ai aucune énergie. Résultat des courses, je ne peux rien faire. En réalité, la motivation a été utile la veille. Elle m'a dopé, elle m'a donné de l'énergie. Et cette énergie-là, je l'ai brûlée en voulant être trop productive. Parce que ça, c'est une chose dont on ne parle pas. En voulant être trop productive, j'ai brûlé toute mon énergie. Et le lendemain, je n'ai plus rien à donner. Donc, ce n'est pas reproductible. Je ne vais pas reproduire ce résultat. Pourtant, ce que j'ai compris, et voici comment je fonctionne aujourd'hui. Quand je me réveille le matin, que je me mets au travail, je sais très bien que quand je fais une tâche que j'aime vraiment, je peux tout donner et me lever de là à minuit. Je vais me forcer à arrêter de travailler quand le moment sera venu parce que je sais qu'en réalité, l'énergie que je vais brûler jusqu'à minuit, c'est l'énergie du lendemain en fait. J'aurais tellement tout donné que le lendemain, je ne pourrais plus rien faire. Donc, ça ne sert à rien d'avancer autant sur une courte période pour avoir une longue période où je ne peux rien faire parce que je suis totalement dévastée. C'est ça, en fait, qui se passe quand on fonctionne à la motivation. Le problème réel, ce n'est pas la motivation en soi, c'est comment est-ce que tu gères l'énergie que te donne cette motivation-là. Quand tu la brûles de cette manière-là, le lendemain, mais c'est fini, en fait. Tu peux être aussi motivé que tu veux, avoir autant de volonté que tu veux, mais tu es incapable de donner quoi que ce soit. Le système doit être reproductible. Tu dois pouvoir calibrer l'énergie que tu peux donner tous les jours, c'est-à-dire que t'assurer qu'il y a un minimum que tu peux faire chaque jour, quelle que soit la situation. Ce n'est pas aujourd'hui je travaille de 8h à 22h, demain je ne fais rien, après demain je fais un 10h, 11h, ensuite je fais... Non, tu n'auras aucun résultat de cette manière-là. En entrepreneuriat, on valorise la constance parce qu'elle crée la prévisibilité. Et la prévisibilité crée la croissance. Si tout est improvisé, comme tout à l'heure je l'expliquais, si tout est nouveau chaque jour, tu n'as le temps de bâtir sur rien. Tout à l'heure, j'ai parlé de 4 axes. Le premier axe, c'était ton corps. Ton corps est un actif. Le deuxième axe, c'est le cerveau. Ton cerveau est un centre de production. En entreprise, la qualité des inputs détermine la qualité des outputs. C'est-à-dire que ce que tu injectes dans la machine, elle te rend exactement la même chose en termes de qualité. C'est la même logique mentale. Ce que tu consommes façonne tes attentes. Contenu médiocre égale attente médiocre. Si tu alimentes une chaîne de production avec des matières premières médiocres, tu ne peux pas exiger un produit premium. Donc, je répète, contenu médiocre, attente médiocre. Si tu consommes quotidiennement du contenu dramatique, polémique, superficiel, quand je parle de contenu ici, je ne parle pas forcément des réseaux sociaux. Je parle de ce que tu lis. Je parle des discussions que tu as. Je parle des personnes qui t'entourent. Si tu consommes quotidiennement un contenu dramatique, polémique, superficiel, tu ne dois pas être étonné d'avoir une vision cynique ou réactive du monde professionnel ou de ton monde personnel. Je prends un exemple sur le contenu politique. Tu me diras, par exemple, que tu aimes beaucoup tout ce qui est politique et tu le consommes sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu regardes beaucoup Brut, TikTok, on Instagram. Et toutes ces plateformes-là font de l'infotainment. On a une grosse couche d'entertainment pour attirer les masses et une petite couche d'information. Par exemple, regarde le World Economic Forum du mois dernier, je pense, à Davos, où quand on a parlé de Macron, on a parlé de ses lunettes et du fait qu'il ne faisait que répéter faucheur, mais personne ne peut dire ce qu'il a dit dans son discours. Parce que ça ne compte pas. L'information, c'est devenu ses lunettes et for sure. Et quand tu consommes ce type de contenu, tu commences à perdre ta capacité à accepter la profondeur. Tu ne peux plus te passer de l'entertainment. Donc, si tu es quelqu'un qui aime la politique, ou alors qui est une personne qui recherche des idées profondes, ou alors qui a besoin, parce que parfois tu peux ne pas rechercher, mais tu en as besoin, qui a besoin d'idées profondes, abonne-toi à des médias de qualité qui font du contenu long format. Tu as The Atlantic, tu as The New Yorker, tu as Harvard Business Review, pour sortir du contexte de la politique, qui vont dans le fond, qui sont vraiment des réflexions structurées qui font une analyse critique. Donc, si tu veux réhabituer ou habituer ton cerveau à développer une pensée, une réflexion critique, tu dois aller vers ce type de contenu-là. Toute entreprise choisit ses fournisseurs sur la base de ce qu'il lui propose comme marchandise. Tu as la même responsabilité qu'il s'agisse de ton cerveau. Parce que ce que tu n'as pas compris, c'est que la répétition crée la croyance. Si ton environnement informationnel te dirige vers l'infotainment et le quick, c'est-à-dire quickness, ça fera en sorte que tu ne seras plus capable de te poser pour lire un article du début à la fin. Combien de personnes qui écoutent cet épisode peuvent aujourd'hui me dire, ah, je peux lire un article depuis la fin sans aller regarder sur Instagram, regarder sur TikTok ce qui se passe. Vous avez bousillé vos cerveaux. Il est temps de reprendre le contrôle. Si ton environnement informationnel nourrit la peur, la comparaison, la distraction, ton cerveau produira de l'hésitation et de la confusion. La clarté est un avantage compétitif. Et un cerveau saturé d'informations inutiles n'arbitre pas bien. En termes d'arbitrage, tu es incapable de prendre les décisions qu'il faut. Je te prends un exemple. Tu veux prendre une décision, mais tu vas récolter 10 avis différents de personnes autour de toi avant de trancher. Sauf que ces 10 avis-là créent plus de confusion. Ils sont contradictoires, ils injectent de la peur, ils injectent de la confusion, ils injectent de l'hésitation. Donc, tu restes paralysé et tu ne prends pas de décision. En entrepreneuriat, la compétitivité vient de la capacité à filtrer. Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu ignores? Qu'est-ce que tu élimines? Et si ton cerveau est saturé, il ne peut pas décider de ce qu'il garde, de ce qu'il ignore, de ce qu'il élimine. Je prends un exemple qui est important pour toi, parce que généralement tu le fais parce que tu te dis que tu es productive et que je te prépare. Tu veux lancer un projet. Tu lis de nombreux livres, tu écoutes de nombreux podcasts, tu suis de nombreuses voix d'autorité sur les réseaux sociaux. Puis, tu te retrouves incapable de te lancer parce que toutes ces infos sont contradictoires, il y en a trop, tu ne vas pas recommencer, et tu finis par penser que tu n'es pas encore assez prête parce que finalement, tu n'arrives pas à piocher ce qu'il faut. Et là, tu reprends le même processus. Tu vas lire, tu vas écouter, tu vas essayer de voir qui dit quoi, qui dit vrai, qui dit pas vrai, et ça devient une boucle sans fin. Tu ne te lances jamais. Pourtant, tu es très occupé, hein. Tu es vraiment très occupé à écouter tout ça, à lire tout ça, mais à la fin de la journée, tu ne te lances pas. Pour démarrer, tu n'as besoin d'identifier que deux voies d'autorité auxquelles tu fais confiance. C'est une fois que tu es lancé que tu vas ajuster selon tes besoins, selon les besoins que va t'imposer le terrain. Et ça, c'est la bonne transition pour passer au troisième axe. Ton attention est une ressource rare. Ce à quoi tu donnes ton attention se développe. En business, on investit là où on veut croître. Et dans la vie, l'attention est ton capital d'investissement. On ne finance pas tout, on choisit. J'ai discuté dernièrement avec une personne qui veut se lancer, mais semble baigner dans la superstition. La personne accorde énormément d'importance à la cachotterie pour que les autres ne sachent pas ce qu'elle prépare. Non, telle personne a de mauvaises vibes. Si elle sait, ça ne marchera pas. Non, si ou ça, ne dis pas ceci à tel. And I was just like, ok. Tu dis que cette personne-là, si elle sait, tu ne vas pas réussir ce que tu veux entreprendre. Tu mets tu déploies une énergie monstre pour que cette personne ne sache jamais ce que tu veux entreprendre. La question que je vais te poser, c'est, est-ce que tout ce qu'elle ne sait pas de ta vie ou dans ta vie marche? La réponse est non. Est-ce que tu penses que cette personne-là, elle n'a pas ses propres problèmes? C'est-à-dire que toi, toute l'énergie que tu déploies, c'est « il ne faut pas qu'elle sache ». Et c'est devenu ton mantra au point où, quand il y a une possibilité qu'elle sache quelque chose que tu veux déployer, tu ne le déploies pas parce qu'elle saura. Donc, toi, tu te mets dans une situation où tu n'évolues pas parce que tu te dis que quelqu'un d'autre a les yeux sur toi et une fois qu'elle saura que tu t'actives, ça va mal se passer. And I was like, I don't know how to explain this for you, mais ce n'est pas en cachant ce que tu fais que tu vas évoluer. Déjà, le simple fait que tu arrives à déplacer la responsabilité de tes échecs, c'est un problème. Tu n'échoues pas parce que tu as mal calibré. Tu échoues parce que quelqu'un a su ce que tu voulais faire. Ça signifie que jamais tu ne vas chercher à mieux calibrer. Tu seras toujours focalisé sur « il ne faut pas que la personne sache parce qu'elle a su que ça va marcher. » So you will never, never fix the situation. Tu te focalises plus sur les mauvaises ondes de la personne, mauvaises ondes certainement inexistantes, que sur ton propre projet. And this is the reason why tu n'évolues pas. Ce à quoi tu donnes ton attention se développe. Et l'attention que tu donnes, c'est vraiment te détourner de ton projet. C'est ça que tu développes. Tu te détournes tout ce qui peut être bien pour toi pour te focaliser sur quelqu'un qui n'a même pas ton temps. Là, j'ai parlé de focalisation, mais il y a aussi la question de la dispersion. Tu te fixes des millions d'objectifs en même temps, c'est-à-dire remise en forme, nouveau projet professionnel, meilleure organisation de la famille, lecture quotidienne, formation en ligne, tout ce que tu veux. Chaque objectif est légitime, mais l'ensemble est ingérable. Tu te lances dans plusieurs choses à la fois et tu avances à 20% sur chacun. À un moment donné, tu baisses les bras parce que tu te dis « je n'évolue pas, je laisse tomber ». En entrepreneuriat, on appelle ça un manque de priorisation stratégique. On ne scale pas 10 axes à la fois. Le problème, ce n'est pas le manque de volonté ou de discipline, c'est la dispersion. Je reviens sur la question de l'attention. Protéger ton attention, c'est un acte de leadership. Tu dois savoir dire non, tu dois savoir limiter l'accès à toi. Prends le cas d'une CEO. Une CEO ne laisse pas son agenda être décidé par tout le monde. Ce n'est pas quand quelqu'un lui dit « oh, j'ai besoin qu'on ait un meeting à 11h, qu'elle plug ton meeting à 11h », non. Elle gère son calendrier et quand tu viens la voir, elle regarde si elle a une disponibilité à 11h. Si elle ne l'a pas, c'est non, on reprogramme. Si elle ne peut pas reprogrammer parce qu'elle estime que ce que tu demandes n'a aucun sens, elle te le dit et elle avance. This is how things should work. Tu dois être très jalouse de ton temps, l'allocation de ton temps. Je prends un exemple simple, le téléphone. Je travaille énormément avec mon téléphone, mais chaque fois que je suis avec ma fille, je n'ai pas mon téléphone parce que le temps que je passe avec elle, c'est un temps qui lui est dédié. Parce que je m'étais rendu compte que j'essayais de passer du temps avec elle tout en répondant à des mails, tout en faisant ceci. Les mails, parfois, je me trompais dans le contenu parce que je n'étais focalisée sur rien. Et après, tu travailles, tu te sens coupable de battre avec l'enfant. Tu es avec l'enfant, tu te sens coupable de pas travailler. En réalité, tu dois arbitrer. Je passe ce temps-ci avec mon enfant, je travaille pas. Je passe ce temps-ci à travailler, je suis avec mon enfant. And this is how you do things. Le quatrième et dernier axe, c'est l'organisation. Ton organisation est une architecture. Un système mal conçu crée du chaos, même avec toutes les bonnes intentions du monde, parce que la volonté ne compense pas une mauvaise structure. Revenons sur l'exemple du travail et des enfants. D'accord? Tu veux être présente pour tes enfants et performante au travail. Ça, on l'a compris. Ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi tu n'as aucun cadre clair sur tes horaires, tes priorités ou tes limites. Le résultat, c'est que tu navigues à vue. C'est-à-dire que tu passes du temps avec les enfants quand tu peux. Tu travailles quand tu peux et finalement, rien n'est prioritaire. Un objectif ne doit jamais dépendre du hasard. Tu dois toujours créer des systèmes qui le rendent probable. Quand je commence à travailler avec une femme, la première chose que je clarifie, ce n'est pas sa productivité, ses objectifs, là où elle veut aller. Non. C'est sa structure centrale. Pour moi, c'est prioritaire. ses enfants, son couple, sa réalité concrète. Est-ce qu'elle veut passer plus de temps avec ses enfants? Est-ce qu'elle veut passer plus de temps avec son mari? Quelle est sa réalité? Pas qu'est-ce qu'elle a envie de vouloir, non. Quelle est sa réalité? Une fois qu'on a ces éléments-là, on peut construire autour. Parce que souvent, on a des priorités qu'on n'assume pas. Je veux passer du temps avec mes enfants, mais je veux aussi être une boss lady. Et comme être une boss lady, ça donne plus de, comment je veux dire ça? Plus de validation extérieure. On se focalise sur je veux être une boss lady. Ensuite, quand on commence à travailler comme une boss lady, on s'en veut de ne pas être là pour les enfants. Tu peux être la boss lady que tu veux, tout en étant là pour tes enfants, mais c'est une question de priorité assumée. Assume que tu veux être une mère présente. Même si nous sommes à une ère où être maman au foyer ou maman très 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 impliquée, c'est ne pas être la professionnelle qu'il faut. This is not our business. Our business is what we want as people. Qu'est-ce que tu veux? Si tu me dis je vais passer plus de temps avec mes enfants, qu'on travaillera sur ton agenda, on va allouer le temps qu'il faut à tes enfants. Et ce temps-là, rien ne viendra le perturber parce qu'il est dans le calendrier. On ne peut rien prévoir on top of it. L'erreur que tu fais, c'est que tu construis autour de tes objectifs. Tu dois construire autour de tes priorités assumées. Si c'est ta vie sociale qui est ta priorité, then tu construis autour de ça. J'ai besoin de voir mes amis pour me sentir bien, pour mon équilibre. Tu construis autour de ça. Si c'est passer du temps avec mon compagnon, tu construis autour. Si c'est être là pour tes enfants, tu construis autour. Si c'est les trois en même temps, tu construis autour. Tu assumes que c'est important pour toi et tu construis autour. Et cet alignement-là t'apporte une paix intérieure indicible. Tu n'es pas stressé parce que tu sais que tu te donnes exactement où tu as envie de te donner. Tu alloues ton énergie et tes ressources exactement comme tu le veux et tu as les résultats que tu souhaites. Le dernier point que je vais aborder dans le cadre de l'organisation, c'est les routines. Les routines te libèrent de la bande passante mentale. Moins de décisions inutiles, plus d'énergie pour les décisions stratégiques. Quand je parle de routine ici, je ne parle pas de miracle morning, réveille-toi à 5 heures du matin, and whatever, whatever. Non. That one is lifestyle. Je te parle de réelle routine stratégique. L'une des questions que je reçois le plus souvent, c'est comment est-ce que tu fais pour faire du sport tout le temps? Comment est-ce que tu fais pour ne pas décrocher? Comment tu t'organises? Comment tu fais pour être aussi discipliné? En réalité, c'est parce que j'ai une routine. C'est-à-dire que je sais exactement quels sont les jours où je fais du sport. C'est le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Le mercredi, le dimanche, je ne fais pas de sport. Ça ne s'arrête pas là. Je sais exactement ce que je fais chacun de ces jours. Je sais quels sont les jours où je cours, je sais quel est le jour où je marche, je sais quel est le jour où je fais de la muscu, je sais quel est le jour où je fais du pilates. Tout ça est défini à l'avance. Donc, quand je me réveille le lundi matin, je sais que je vais faire du sport, je sais déjà ce que je vais faire. Donc, la fatigue décisionnelle n'existe pas. En fait, je n'ai même pas à y penser parce que c'est déjà établi dans mon calendrier, c'est clair. Si ça n'avait pas été le cas, voici le nombre de décisions que j'allais avoir à prendre avant de faire du sport. Ok? Je réfléchis à est-ce que je fais du sport aujourd'hui ou non? Est-ce que je me sens assez bien pour faire du sport? Si la réponse est non, mais vraiment, est-ce que c'est une bonne idée parce que c'est mieux de faire du sport parce que whatever, whatever, on hésite, on fait machin. Finalement, on se dit, je ferai du sport. Ok, mais si je fais du sport aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais courir? Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que je fais du pilates? Est-ce que je fais de la muscu? Comment est-ce que je m'organise? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ok, je vais regarder un petit peu sur YouTube, je vais voir un peu s'il y a des vidéos qui me parlent. Et là, on scrolle pendant 45 minutes et on se rend compte qu'on avait une heure de temps qu'on est là-dessus. And then, on en a déjà marre, on passe à autre chose. Cette heure que tu as perdue, tu aurais pu faire ce sport-là si tu avais été mieux organisé. Automatisé. Automatise tout ce qui peut être automatisé. Oublie la créativité. Pour certaines choses, tu n'as pas besoin d'être créatif. Si tu te dis, tu vas t'ennuyer avec un programme pareil, tous les 3 mois, tu le revois. Tous les 3 mois, je change mon programme. And then, je ne reviens pas dessus. Je fonctionne de la même manière pour la gestion du matin avec ma fille, pour les repas de la semaine, et même parfois pour mon programme de travail de la semaine. Tout est bloqué à l'avance. C'est-à-dire que Le week-end, le dimanche, je bloque absolument tout. Dans la semaine, je ne réfléchis plus. Aucune fatigue décisionnelle. Mon énergie est allouée à ce qui importe. Ce que ça a comme résultat, c'est moins de micro-décisions, plus de profondeur, c'est la décision qui compte. En entrepreneuriat, la standardisation n'est pas rigide, elle est libératrice. Il y a quelque chose d'intéressant que j'ai observé au fil des années. La plupart des femmes que j'accompagne pensent que leur problème, c'est la discipline. Elles me disent, je manque de rigueur, je n'arrive pas à tenir, je commence et je ne finis pas. Ou à l'inverse, elles me disent, moi je suis très disciplinée, je tiens tout, je ne lâche jamais. Dans les deux cas, c'est très souvent une illusion. Certaines se croient disciplinées parce qu'elles encaissent tout. C'est-à-dire que malgré le manque de sommeil, malgré la surcharge, malgré l'absence de structure, elles tiennent. Mais tenir, ce n'est pas structurer, hein. Non. Résister, ce n'est pas construire. Et surtout, note ceci, la survie n'est pas une stratégie. Par contre, celles qui se croient indisciplinées pensent qu'elles manquent de caractère, qu'elles ne sont pas assez organisées, qu'elles ne sont pas faites pour les grandes décisions. Mais quand on regarde de près, on voit autre chose. Il n'y a pas de priorité hiérarchisée. Il n'y a pas de créneau protégé, rien dans le calendrier. Il n'y a pas de routine reproductible. Elles essaient d'être créatives tous les matins. Il n'y a pas d'arbitrage assumé. Aucune décision immuable. Ce n'est pas un problème de personnalité, c'est un problème d'architecture. Tu ne peux pas exiger d'une entreprise sans process qu'elle soit performante, comme tu ne peux pas exiger de toi d'être discipliné sans structure. Et c'est là que le coût réel apparaît. Quand tu crois que tu manques de discipline, tu attaques ton identité. Tu te dis que tu n'es pas assez forte, tu te dis que tu n'es pas assez rigoureuse, que tu n'es pas assez stable. Alors que parfois, tu es simplement en train de fonctionner dans un système mal conçu. Le coût est différent quand tu crois que tu es discipliné. Tu t'épuises, tu raccourcis ta vision, tu prends des décisions défensives, tu vis en mode conservation et protection. L'entrepreneuriat m'a appris quelque chose. La volonté ne scale pas. Tu ne peux rien développer en te basant uniquement sur la volonté ou la motivation. Par contre, tu peux tout développer en ayant des systèmes clairs. Et la discipline, ce n'est pas une qualité morale. C'est une conséquence d'une structure claire. Il y a toujours un coût quand tu fonctionnes sans structure claire. Le coût ne se voit pas immédiatement, mais il est là. Par exemple, la qualité de tes décisions, on en a parlé. La cohérence, on en a parlé. Les attentes, on en a parlé. La direction, on en a parlé. Et l'image que tu construis de toi-même, ça c'est le coût ultime. Quand tu vis dans un système mal conçu, tu produis des résultats instables. Tu commences des choses que tu ne termines pas, tu prends des décisions que tu ne tiens pas. Tu annonces des intentions que tu ne matérialises jamais et face à ces résultats-là, tu conclus que le problème, c'est toi. Tu te dis que tu manques de discipline, que tu n'es pas constante, que tu n'es pas fiable, que tu n'es pas faite pour les grandes choses. En fait, tu transformes un problème structurel en un défaut identitaire et c'est là que le danger commence. Parce qu'à force de te voir comme quelqu'un d'irrégulier, tu baisses tes ambitions. Tu te vois comme quelqu'un qui ne tient pas, donc tu évites des décisions engageantes. Tu te vois comme quelqu'un qui est désorganisé, donc tu ne te donnes plus accès aux opportunités qui exigent une stabilité et un cadre. L'absence de structure ne détruit pas seulement tes résultats, elle altère ta perception de toi-même. Et quand ton identité se fragilise comme ça, ton champ d'action se réduit. C'est pour ça que je parle d'architecture. Parce que ce n'est pas une question de motivation, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de cohérence entre ce que tu veux être et le système dans lequel tu fonctionnes. Et tant que tu attaques ton identité au lieu de revoir la structure, tu luttes contre toi-même au lieu de corriger le mécanisme. Je pense qu'on a fait le tour, on a parlé des 4 leviers importants pour pouvoir te structurer, à savoir ton corps, ton cerveau, ton attention, ton organisation. On a décortiqué l'illusion de la discipline ou de l'indiscipline, on a parlé des coûts réels, du manque de structure et d'architecture. Je vais terminer en disant ceci. Si en écoutant cet épisode, tu t'es reconnu, si tu comprends que ton problème n'est peut-être pas la discipline, mais l'architecture dans laquelle tu fonctionnes, ce n'est pas un hasard. Tu as pleinement conscience que ce n'est pas un problème de volonté ou de motivation, qu'il faut revoir en profondeur la structure sur laquelle reposent tant tes décisions que ton énergie ou ton organisation. J'ouvre des places pour mon accompagnement en one-on-one. On va pas te rendre plus forte, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On va construire un système qui rend ta force durable, stable et cohérente, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu veux qu'on travaille ensemble, écris-moi l'adresse c@befoun.com. Je répète, c@befoun.com. Je mettrai dans la description de l'épisode. Ton mail doit avoir pour objet « Je veux travailler avec toi ». Je le lirai personnellement et je te répondrai. Là, j'ai officiellement fait le tour. Sur ce, people, bye!